Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Gertrude. Bon retour chez toi. Vous savez, depuis quelques années, je traîne une vieille toux. On a tout fait, le médecin me dit c'est peut-être un rhume des foins. Mais quand j'étais aux Antilles, il n'y a pas de foin. Il m'a dit j'ai jamais vu ça en tout cas. Et chaque fois, mes enfants me disaient « Papa, j'ai mal ici. » J'ai dit « T'inquiète, c'est 5 minutes avant la mort. » Et aujourd'hui, bon, on voit l'ascenseur. Quand ils m'entendent tousser, ils me disent « T'inquiète, c'est 5 minutes avant la mort. » J'aimerais, en ce dimanche matin, parler de la mort. Par chose courante, un dimanche où on est censé louer, adorer le Seigneur, je vais vous parler de quelque chose de triste. Non ? Vous n'avez pas envie ? Vous n'avez pas le choix. Regardez dans Genèse, chapitre 5. Parce que quand vous regardez les actualités, pas un jour ne passe sans qu'il y ait mort, féminicide. Tout récemment, c'était Lula. Et on crie au scandale, et on crie à l'injustice, et on dit on n'a jamais vu ça. J'ai 85 ans, je n'ai jamais vu ça. Oui, mais on n'a pas fini de voir. Hein? Et chaque jour qui passe, on voit des choses étranges parce que le plus grand prédateur ici-bas, c'est l'homme. Pire que les requins blancs. Et donc, dans Genèse chapitre 5, il est dit ceci comme sentence à ce qui devait arriver à Adam à partir du verset 3, lisons, Adam, Genèse, chapitre 5, verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut. Continuons. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 912 ans, puis, vous avez même peur de prononcer le mot mort, mais ça va nous arriver tous un jour. N'est-ce pas? L'Ecclésiaste dit l'homme naît, puis il meurt. Désolé. Il naît, il souffre ici-bas et il meurt. La mort est à chaque coin de rue et la mort n'a pas de, comment dire ça, respect pour les sexes, ni pour l'âge, ni pour le rang social. Et il se trouve que quelqu'un a dit que la mort est mal élevée, irrespectueuse. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la faucheuse. Elle vient et vous prend par les deux pieds et puis elle vous dit on y va. Mais c'est toujours une injustice pour nous quand nous perdons un être cher. Quand bien même mamie à 97 ans, c'était ma mamie. N'est-ce pas? Pourquoi pas à quelqu'un d'autre? Il y a déjà 110 ans. Et je vous ai parlé de Jean-Claude récemment qui avait une pile là, au niveau du cœur et sa pile a un peu lâché. Et son cardiologue lui dit, Jean-Claude, c'est son cardiologue depuis longtemps, ta pile a lâché, tu vas bientôt mourir. Et il répond, toi aussi. Il est toujours là, 94 ans. Et quand je vais le voir, je lui dis, tu veux aller marcher? Il m'a dit, soyons fous, allons marcher. Il est vigoureux et il a toute sa tête. C'est incroyable. Mais parfois, on est fatigué de voir ces actualités avec des morts en veux-tu, en voilà, toutes les secondes. Et on se dit, mais c'est pas juste parce qu'il avait seulement 3 ans. C'est un bébé. Et même quand il a 40 ans, on dit, c'est encore mon bébé. Et c'est injuste. Mais bon, c'est comme je viens de lire dans Genèse, c'est la conséquence du péché d'Adam. le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et aujourd'hui, toute l'humanité, je dirais, père et pot cassé. Vous connaissez toutes les expressions qu'on utilise aujourd'hui pour ne pas prononcer le mot mort. On dira, passer la main gauche. Il a cassé sa pipe. Il a fait, comme on dit en Guadeloupe, il a fait la traversée. J'aime beaucoup cette expression. Mais bon, néanmoins, il est mort. Il n'est plus. C'est, comme on dit, c'est un cadavre. Et aujourd'hui, il y a des adverbes qu'on ajoute à la mort. On dit qu'il est mort brutalement. Il est mort subitement. Hier, on était là, on parlait. Ce matin, on parlait ensemble. Et puis, on a rigolé. Et puis, il est mort subitement. Et le pire que j'ai entendu, c'était à la mort de Coluche. Il y a quelques années en arrière, j'étais au travail. Et puis, il y a une collègue qui arrive, effarée. Et puis, elle me dit, Coluche est mort. Je dis, eh? Il me dit, mais il est mort bêtement. Vous avez déjà vu des humains mourir bêtement? Oui. Parce que parfois, la mort, c'est la conséquence de nos bêtises. Les parents nous parlent une fois, deux fois, trois fois, mais nous faisons à notre tête et puis nous avons les conséquences qui payent plus que les paroles, que les conseils. Aujourd'hui, quand on parle de mort, on pense à cette parole de Dieu à Israël. Israël disait, de toute façon, Dieu il a créé toutes choses et puis il a laissé l'humanité à l'abandon. Mangeons, buvons, demain, nous mourrons. Et Dieu dit à Israël, puisque tu sors ces paroles-là, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et tous nous sommes invités à nous préparer à rencontrer Dieu un jour. N'est-ce pas? Et là, il n'y a pas d'âge. Hein? L'enfant naît aujourd'hui et il meurt dans la seconde. C'était sa durée de vie. Et puis, il y a d'autres qui sont là à 114 ans qui disent, quand est-ce que le Seigneur va me prendre? J'en ai assez. J'ai assez vu. Et puis, ils sont là. Et Dieu dit, attends, patience. J'aime cette définition de la mort. Quelqu'un a dit, la mort, c'est la dislocation de l'âme et du corps. Vous voyez, imaginez un boucher avec un couteau très affûté et puis il sépare jointure et moelle. C'est la dislocation de l'âme et du corps. Et c'est pour nous qui restons un déchirement, n'est-ce pas? On passe du déni au choc ou choc au déni et vous savez de quoi je parle. Nous avons tous ici perdu un parent, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas encore perdu, vous allez en perdre. Parce que c'est le sort de tout homme. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et à moins de naître de nouveau, parce que c'est la mort séparée de Dieu, éternelle, à moins de naître de nouveau, tu subiras le même sort. Or, tous ceux qui, ici, de leur vivant, ne sont pas nés de nouveau, subiront cette séparation, ce déchirement avec l'éternel. Chers sœurs, passer par les eaux du baptême sans être né de nouveau ne sert à rien. C'est valable pour toi comme pour n'importe qui. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est un bain que tu as pris. Parce que le tout, c'est de naître de nouveau. Et Jésus disait à Nicodème, dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, à moins de naître de nouveau, à moins de naître d'en haut, tu ne peux voir et tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est le départ, point de départ d'une vie nouvelle avec Christ. Ce n'est pas le baptême. Et nous avons tous besoin de cette nouvelle naissance, de cette assurance, de cette nouvelle naissance pour changer de vie. Alors, quand on parle de mort aujourd'hui, on dit qui a... Parce que j'ai beaucoup de questions, je n'ai pas forcément les réponses, mais vous allez les trouver. Qui détient le pouvoir sur la vie et la mort? Pour nous, c'est Dieu. Pour d'autres, c'est moi. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de suicide assisté. Vous avez entendu parler? Donc, j'ai le pouvoir de m'ôter la vie parce qu'il y en a marre. Je ne veux pas ressembler à un légume. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas résolu le problème de l'euthanasie en français. C'est interdit. Et vous connaissez tous ces procès qui ont eu lieu parce que tu n'as pas le droit d'ôter la vie à l'autre, comme tu n'as pas le droit de t'ôter la vie. Mais ça va peut-être vous étonner, mais même chez les chrétiens, il y a des cas de suicide. Et on se pose des questions. Dans le cantique de Moïse, dans Deutéronome chapitre 32, versets 39 à 40, c'est juste deux versets, un verset, Dieu montre qu'il est le seul ayant droit sur la vie et la mort. Voici ce qu'il dit, sachez, dit-il, que c'est moi qui suis Dieu. Et il n'y a pas d'autre que moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Est-ce que Dieu guérit tous les hommes qui crient à lui? Non. Est-ce que moi, je suis en 2023 prêt à accepter la mort comme une guérison, comme une réponse de Dieu? Surtout si je suis chrétien, parce que j'ai prié, on m'a fait onction d'huile, j'ai jeûné. Il n'y a pas de raison. Mais Dieu choisit de dire, montre-la. Et j'en veux à Dieu parce que ce n'est pas juste. La mort n'est pas un mythe. Et depuis longtemps, les hommes se disent, mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, et puis c'est la vie, et puis après la mort, c'est des petites bêtes. Vous connaissez ça, hein? Surtout aux Antilles. Parce que sous la terre, il n'y a pas de plaisir, donc mangeons, buvons, demain, c'est des petites bêtes. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu dit, viens la mort, et puis chacun aura à comparaître devant le Seigneur, le seul juge. Et le jour vient. Et donc, l'histoire, j'aime beaucoup cette histoire d'Ézéchias. Je vais vous la raconter en ce matin, Ésaïe chapitre 38. C'est plus sa démarche vis-à-vis de Dieu et comment aujourd'hui je réagis face à la mort et face à l'éternité. Dans Ésaïe chapitre 38, avant d'arriver à 38, on va aller à 36. Ézéchias, il a 25 ans. Il y a quelqu'un qui a 25 ans ici? 25 ans, c'est jeune pour diriger un peuple. Et Juda, c'est un peuple nombreux. Et il y avait des têtes brûlées comme nous. Et ce jeune homme, 25 ans, il est à la tête du peuple. Il a, à la différence de ses pères, la possibilité de choisir entre Dieu et puis les divinités d'antan. Et il choisit de servir et de craindre Dieu. Il va entamer des réformes et puis il va refuser les assauts du roi d'Assyrie qui veut un peu tous les trésors du temple. Et ça va pas plaire du tout au roi d'Assyrie. Et il va envoyer une ambassade, Ésaïe chapitre 36, versets 1 à 4. Je ne vais pas vous lire tout le texte, vous aurez tout le temps chez vous ce midi. La 14e année du roi d'Ézéchias, Sénécharib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, le Rabshakeh, avec une puissante armée. Celui-ci se plaça à l'aqueduc du bassin supérieur et sur le chemin du champ des souliers. Verset 4. Le Rabshakeh leur dit, dites, je vous prie à Ézéchias, à ce petit morveux. Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, en 2023, toi chrétien, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? C'est le médecin, c'est le psychologue, c'est les parents, c'est les amis, c'est la science. Où places-tu ta confiance? Et ça, c'est une question qui va pénétrer Ézéchias, qui va le déranger. Et Ézéchias va envoyer une ambassade auprès du prophète Ésaïe. Ésaïe et Ézéchias, ils se connaissaient. Les prophètes avaient la liberté de parcourir les cours royales de l'époque, et ils s'étaient déjà rencontrés plusieurs fois. Et Ézéchias arrive à perdre un peu confiance, il est troublé, il est jeune, c'est normal. Et pour avoir sa tranquillité, il va donner tous les trésors du temple au roi d'Assyrie. Souvenez-vous, pour avoir sa tranquillité, beaucoup se sont fait vacciner contre le Covid. Ézéchias, ce n'est pas le premier. Hein? Mais la tranquillité, ça n'a pas de prix. Et on se dit, pour qu'il me reste tranquille, allez, tous les trésors que ses prédécesseurs avaient acquis, etc. Eh bien, il donne tout et puis il dit, dégage. Mais vous savez, quand vous négociez avec des terroristes, ils n'ont jamais assez. Ils reviennent à la charge. Et c'est ce que le roi d'Assyrie va faire. Et vraiment, il va mettre la panique chez Ézéchias. Et pour preuve, Ézéchias va dire à Esaïe, écoute, prie-toi. D'ailleurs, de dire, ta prière peut-être aura plus d'efficacité que la mienne. Parce que peut-être que ton Dieu, il va entendre et peut-être qu'il va exercer une autorité et la justice auprès de celui-ci. Ça nous arrive, n'est-ce pas? On dit, fais une petite prière pour moi. Et un frère, une fois, m'a dit ça, j'ai dit, Dieu est grand, je ne fais pas de petite prière. N'est-ce pas? Le roi Ézéchias va perdre confiance et dans sa tête cette question de revenir, mais quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et il nous arrive de réagir comme Ézéchias. Il traverse un grand moment de trouble et la coupe est pleine. Et détresse s'accumule en lui. Quand vous allez voir votre médecin, il dit « Ah, vous êtes stressé ». Mais c'est quoi le stress, par définition? C'est un dérèglement physiologique, dit le petit Robert, c'est un bouleversement intérieur. Vous êtes en détresse. Mais en détresse de quoi? On n'arrive pas à qualifier la détresse. Mais cette détresse ressemble à un stress, et le stress ressemble à une détresse. Alors on est dans la confusion. Vous me suivez? Allez suivre le médecin quand il vous dit ça. Et donc, à cause de ça, il vous donne Doliprane. Vous êtes stressé, mais il vous donne Doliprane. Donc, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Aujourd'hui, on entendrait peut-être un peu les parents nous dire, mais tu crois en Dieu, tu confesses Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Pourquoi il ne guérit pas un tel? On a allumé bougie, on a fait des neuvaines, on a prié par-ci, on a fait la... Pourquoi il ne guérit pas? Et l'autre, là, on lui a fait onction Dieu, on lui a fait tout fait, et il est mort. Il ne donne pas signe de vie. Au chapitre 37, Esaïe 1 à 4, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, donc une nouvelle ambassade, intendant et d'autres, vers le prophète Esaïe, fils d'Amos, et lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'accouchement. C'est la détresse. Vous avez déjà vu une femme qui doit accoucher et qui va, qui est sur le point et qui n'a plus de force? Ézéchias dit, je suis là. Peut-être que l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il les paroles du Rabshaké que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'a entendues l'Éternel. Alors fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Et c'est ainsi que Ézéchias va arriver à, si on essaie de paraphraser, à dire à Esaïe, écoute, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, le bébé se présente mal, la détresse est là. Ça nous est déjà arrivé de passer par ces moments de souffrance, de maladie, et d'arriver à ce stade où la peur nous paralyse à un tel point, on dit on est mort de peur. Je ne sais plus prier. Je ne sais plus rien faire. Je ne sais plus quoi faire. J'attends la mort. Vous savez, il y a des gens qui sont morts debout parce que le médecin leur a dit, ah, je crois que ce que vous avez, c'est peut-être une leucémie, ou bien vous avez le Covid, ou bien vous avez un cancer. Et c'est même plus la peine de se battre. Je vous donne 6 mois. Mais ce que l'homme dit, ce que Dieu dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, mais je vais vivre ces 6 mois-là, puis je vais mourir, ou bien je vais me battre. Il y a quelques années, dans notre assemblée, il y a une sœur qui était atteinte de l'hépatite C. Si vous êtes dans le milieu, vous savez qu'on ne guérit pas de l'hépatite C. Cette sœur aujourd'hui a 82 ans parce qu'elle s'est battue. Elle a enterré son mari, elle a enterré sa maman, elle a enterré d'autres. Elle est plus vigoureuse que vous à 82 ans. Elle avait fondu. On ne pouvait même plus la toucher tant elle avait mal partout. Mais elle a dit au médecin, mais je vivrai. S'il y a un 1% sur 10, 1 sur 100, pardon, qui doit être guéri, mais je serai celle-là. Parce que je crois en mon Dieu. Et donc, la peur peut nous paralyser et nous tuer debout. Et le roi Assyrie, d'Assyrie, comme une gangrène, il va revenir à la charge et il va perturber ce jeune homme de 25 ans qui aujourd'hui a 39 ans, 40 ans, et on arrive au chapitre 38. Et il est là à la cour et il voit, parce que ça dure des années et des mois, il voit Esaïe arriver et il dit, écoute, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Mes amis, on arrive chez vous, on vous dit ça, vous faites quoi? Vous dites à l'autre, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Parce que Esaïe, observez bien, il a mis une douzaine de paires de gants avant de lui dire ça. N'est-ce pas? Non. Il n'a rien mis. Il est arrivé direct et il a dit, écoute, donne tes ordres, tu vas mourir. Et il est reparti. Aujourd'hui, on aurait procédé comment? On serait arrivé, tu es chez toi, j'arrive, j'ai quelque chose à te dire. Parce que vous avez reçu une prophétie ou une vision, je ne sais pas quoi, et vous dites ce que j'ai à te dire, ce n'est pas facile, mais ça m'embête. Et vous allez tourner autour du pot avant de lui dire, écoute, prépare tes affaires. Est-ce que Ézéchias a des affaires à préparer? Pour ce voyage-là, mes amis, il n'y a pas besoin de passeport, pas besoin de valise. C'est un aller simple. Et chacun doit être prêt aujourd'hui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et tous les jours, nous disons Jésus revient bientôt, mais personne ne se prépare à ce qu'il revienne aujourd'hui. Et donc, Ézéchias, il fait quelque chose que souvent nous avons eu l'occasion de faire. Hein? Parce que nous apprenons plus tard qu'il a atteint un ulcère. Vous savez, la pression, l'anxiété, le stress, tout ça, ça nous détruit à l'intérieur. Il se tourne vers le mur, c'est pas le mur de lamentation, mais il se tourne vers le mur et il pleure. Vous avez déjà pleuré au beau milieu de la maladie, c'est tellement intense que vous voyez la mort de tellement près que vous pouvez toucher la mort. Si vous n'êtes jamais passé par la maladie, vous ne savez pas de quoi je parle. Je ne sais pas le nombre de fois j'ai été opéré ou je suis passé dans les hôpitaux et j'ai vu la mort de près. Mais quand on parle à des malades, s'ils ne comprennent pas, c'est parce que vous parlez trop. Et à un malade, on ne dit pas grand-chose. Hein. Parfois, la présence ou l'écoute apporte beaucoup plus que du blabla. Vous me suivez? Esaïe ne dit pas grand-chose. Il dit, donne tes ordres, tu vas mourir. Et bim, il s'en va. Ézéchias craque. Chers frères et sœurs, tous les grands craquent, craquent. On a beau être majeur comme on veut, il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. Ce n'est pas la leucémie, ce n'est pas le cancer. Un moustique les a piqués, a donné une maladie, il s'est transformé. Et puis, des grands chênes, des grands arbres centenaires ont résisté à des cyclones et puis ont été mangés, rongés par un microbe à l'intérieur, un mythe. N'est-ce pas? Et ils sont tombés. Ézéchias craque. Et ma question est, aurait-il eu peur de la mort? Je pose une autre question, et pourquoi pas? Levez bien vous ramener ceux qui n'ont pas peur de la mort ici. Oui. Nous sommes tous comme Ézéchias. Et souvent on m'a dit, mais j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur des 5 minutes qui précèdent la mort. Et je ne vais pas souffrir. Je vais aller me coucher et puis ne pas me relever. Parce que Dieu a dit ça. Pourquoi certains traîneraient dans la souffrance et pas toi? Sur quel mérite? Bon, bref, dites-moi. Nous avons tous versé des larmes dans cette phase-là de la vie. Et on est arrivé à se dire, comme l'apôtre Paul, j'ai le désir de m'en aller. Hein. C'est pas que je ne veuille pas mourir. Mais en même temps, je préfère rester. Mais Paul ne parlait pas de la mort physique, la peur de la mort physique. Il disait simplement que sa mission serait beaucoup plus importante en restant, travailler parmi les frères, plutôt que d'être auprès du Seigneur. Pour le moment, il y a des choses à faire. Ézéchias signifie l'Éternel est ma force, ou l'Éternel me fortifie. Et l'Éternel fortifie tous ses enfants au beau milieu de la détresse. Invoque-moi et je te répondrai. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend du fond de la détresse, du fond de l'abîme. Est-ce que, mes amis, ce Dieu-là a changé? Vous savez ce qui nous fait peur? C'est notre incertitude que nous allons nous présenter devant Dieu. Ou à la mort, est-ce que j'ai été pardonné de tout? Est-ce que mon passé n'est pas en train de remonter à la surface? Est-ce que ce n'est pas à cause de mon passé que je souffre aujourd'hui? Est-ce que je suis réellement pardonné? Est-ce que... Et on se pose plein de questions. Et vous savez ce que Satan fait? Il nous emprisonne dans la peur. C'est une prison, la peur. Vous savez d'où elle est sortie? La Genèse. Adam et Ève ont dit, nous avons entendu ta voix dans le jardin, nous sommes cachés parce que nous avons peur. Auparavant, ils n'avaient pas peur. Mais le péché est entré, la peur aussi. Et Dieu se laisserait-il apitoyer par nos larmes et par nos pleurs, par nos prières, parce que on peut penser que si, hein? Puisqu'il répond à la prière d'Ézéchias. Ésaïe encore à la cour du roi, que Dieu lui dit, écoute, retourne voir Ézéchias et dit, oui, j'ai entendu, d'accord, j'ai entendu, j'ajoute 15 jours à ta vie. 15? Ah, vous étiez là? 15 années à ta vie. J'ai ici le témoignage d'un frère, je l'ai connu en Martinique. Il était atteint d'insuffisance rénale et il était supposé faire de la dialyse. Vous savez ce que c'est pour ceux qui travaillent dans le milieu. Tout change de sang 3 fois par semaine. Là, il a dit non. Seigneur, tu as ajouté 15 ans à Ézéchias. Je ne te demande pas 15 ans, mais je ne vais pas faire ça. Dieu a ajouté 17 ans à sa vie. Ce Dieu-là a changé, mes amis. J'ai connu Ozuri, il a travaillé des années avec moi à la radio. C'était un animateur préféré de tous les auditeurs. Et donc, quand nous traversons ces moments difficiles, nous ne comprenons pas et nous avons, comme Habacuc et comme beaucoup d'autres, la question « Pourquoi, Seigneur ?» Est-ce que le Seigneur nous doit une explication? Je pense aussi à Achille. Achille vient de perdre son boulot et il perd sa femme. La question est, Seigneur, pourquoi moi? Et alors qu'Achille traverse un chantier, il voit des ouvriers tailler des pierres, il voit quelqu'un tailler une pierre en forme de triangle. Ça intrigue un peu et il dit, mais pourquoi cette forme particulière, triangle? Et l'ouvrier de lui dire de lever la tête et de voir l'espace en haut réservé à la pierre, forme triangulaire. Il dit, c'est exactement là qu'elle va. La moralité de l'histoire, Dieu nous taille ici-bas pour nous passer là-haut. N'est pas donc. Dieu nous taille ici-bas comme un diamant pour nous placer là-haut. Allô? Est-ce que nous sommes prêts à tailler par Dieu? Non, Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi, et puis quand vient le moment de souffrir, on ne veut pas souffrir. On ne veut même pas mourir parce que sinon, ce n'est pas juste. Je suis encore jeune, j'ai encore des choses à faire et à voir, je n'ai même pas encore d'enfant. Et alors, qui est l'auteur de la vie? Vous savez, Dieu, celui qui fait grâce et il fait miséricorde à qui il veut, il fait vivre et il laisse mourir qui il veut. J'ai vu ma première épouse partir en un mois, atteinte de leucémie. On a prié pour elle. Elle a commencé la chimio et n'a pas fait deux séances de chimio. Parti en un mois. On avait prié pour elle. Toute la Martinique priait pour elle. Et j'ai quand même entendu dire, c'est pas juste. Elle avait 48 ans. Elle était jeune. Mais est-ce que le Seigneur fait des erreurs? Est-ce qu'il doit avoir notre aval avant de choisir quelqu'un? Et je me console encore aujourd'hui en me disant, et demander à mon époux, je l'appelle toujours Mireille parfois. Je me console en me disant, mais Dieu sait. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer là-haut? Dites-moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous préparer là-haut? Les noces de l'agneau. Et vous pensez que Dieu n'a pas besoin de petites mains pour préparer, mettre le couvert, mettre des bouquets sur les tables, faire des choses, préparer la chorale qui va nous faire une aide d'honneur pour ceux qui nous... Et quoi? Dieu ne fait pas les choses à moitié. Est-ce qu'il a besoin de mon aval? C'est lui qui est l'auteur de la vie. Et quand il choisit de prendre son enfant, sa créature, qu'est-ce que j'ai à dire? Je dois accepter. Alors c'est plus facile pour nous de dire Dieu a donné, Dieu a repris quand il s'agit des autres. C'est ce que je m'en dis. Hein? Mais quand il s'agit de nous, Seigneur, sèche mes larmes parce que tu m'as dit non, c'est pas moi que tu veux dû faire ça quand même. Mais notre fidélité, chers amis, n'est pas une assurance tout risque. Ce n'est pas parce que je suis à toutes les réunions, je me suis converti, baptisé, je lis la Bible, je fais ceci, que Dieu il va me laisser là et puis me dire, restera encore à 200, 210 ans. Il m'a dit, il a vécu longtemps. Il est mouru heureux. Je suis en train de dédramatiser le mythe qu'est la mort. Parce que beaucoup le voient comme un mythe. La voient comme un mythe en disant, mais... quelle est ton espérance face à la mort? Quelle est ta réaction quand aujourd'hui tu te dis un jour je vais me présenter devant Dieu, je serai clean, je suis prêt Seigneur. Et si tu n'es pas prêt, c'est maintenant qu'il faut te décider à te préparer à la rencontre de ton Dieu. Et je répète, ce n'est pas le baptême, c'est la nouvelle naissance, une nouvelle vie en Christ. Et chacun doit réfléchir là-dessus. Et vous savez, quand Jésus est allé pour mourir à la croix, sa plus grande décision a été Gethsémani. À Gethsémani, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite. Ce qui restait entre Gethsémani et la croix, c'était une formalité. Parce qu'à Gethsémani, il avait déjà dit oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu as déjà dit oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie? Nous continuons de pleurer les morts, ils ne vont pas revenir, nous le savons. Nous continuons de pleurer parce que le monde part en cacahuète, mais le monde ira encore en cacahuète. Parce que Dieu a préparé un feu qui va purifier tout ça, et nous attendons ce jour où de nouveaux cieux et nouvelles terres descendront du ciel, et puis la Bible dit Dieu lui-même habitera au milieu de nous. Et la mort ne sera plus. Amen. Vivement ce jour, n'est-ce pas? Mais en attendant, nous devons chercher à trouver le chemin de la vie, chercher à suivre le chemin, la vérité, la vie qui est Jésus-Christ, et à nous positionner sur le chemin de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et Dieu nous encourage, chers frères. Tous les jours, nous partons, nous prenons le train, nous prenons l'avion, nous prenons notre véhicule sans jamais savoir si nous allons revenir à la maison. N'est-ce pas? En qui nous mettons notre confiance? Que Dieu nous aide.
Il a fait vite, hein. Je passe par là, il passe par là. Merci Seigneur. Toute la gloire à Dieu pour ce message que Dieu nous a donné. Je vais inviter maintenant Agnès, et je vais appeler notre frère, notre pasteur Serge, pour ce moment important dans la vie d'Agnès.
Voilà, voilà. Nous sommes à ce moment. Oui, merci. Là, oups. Nous sommes là dans ce moment particulier de cette journée. Cette prédication avait aussi un air de la vie de Agnès. Elle a traversé tous ces moments de santé difficiles. Et c'est un miracle qu'elle soit là debout avec un visage aussi rayonnant. C'est une grâce de Dieu. Et nous voulons être reconnaissants pour la vie de cette femme. Que Dieu, et avec son courage, elle a su, comme elle a dit dans son témoignage, entendre cette douce voix, su cette voix de Dieu. Dieu lui a tendu la main. Elle a saisi cette main. Elle est debout aujourd'hui. Et c'est toujours avec une certaine émotion que nous sommes les témoins des hommes et des femmes transformés par la présence de Dieu. Des fois, à cause de l'habitude, nous regardons ces cérémonies comme quelque chose de finalement ordinaire. Mais non, il s'agit de quelque chose de spécial. Il s'agit de quelque chose qui est marqué dans l'éternité de Dieu. Une femme aujourd'hui va témoigner de son engagement avec Dieu. Et de ce que le Seigneur, son Dieu, lui a donné la main, l'a fait passer de la mort à la vie, et va continuer de lui tenir cette main aussi longtemps qu'il s'appelle l'Éternel qui sauve. J'invite Agnès à rentrer. Nous allons, comme nous le faisons lors de ce type de cérémonie, inviter Agnès à confesser ce qu'elle a déjà dit comme un témoignage de cet amour de Dieu.